acoustique d'une manière qui c'est hyper développé, tous les phénomènes de vibration avec les équations de Fourier, tout ça c'est magnifique. Magnifique. Bon, il n'y aurait pas Lacan, moi je m'occuperai de ces choses-là, je trouve ça magnifique. Bon. Mais le problème c'est que, d'ailleurs, quand j'étais jeune, moi à 20 ans, même à 30 ans, il n'y avait aucun traité d'harmonie satisfaisant. Moi j'ai arrêté de faire de la musique parce que je trouvais que c'était trop convenu. C'était comme la musique que j'ai connue en harmonie. Chez tous les profs, c'était toujours la même chose que la rhétorique du 19e, chez Dumarsais ou Frontanier. Hein. Qu'est-ce que c'était la rhétorique? Les tropes, savoir apprécier une figure de rhétorique dans un poème, chez Racine, tout ça. C'était très convenu. Ils donnent des définitions qui sont bidons. Il faut que vous lisiez ça pour vous rendre compte que. Alors, mais là, les définitions étaient à la gomme. Hein, et pas du tout aux petits oignons en rhétorique. Et en musique, c'était pareil. Mais en art, c'était au contraire pas à la gomme et tout à fait aux petits oignons. Bon, ben moi, je dis que tout ça n'a pas. Ce sont des différences qui sont fausses. C'est aussi bête que de dire qu'il y a des gens qui sont littéraires et des gens qui sont scientifiques. Moi, j'ai jamais rencontré un type ou une femme savant intéressant qui ne pratiquait pas aussi bien le grec que les mathématiques. Mon prof de physique qui sortait de cette école à Moulin, avec qui j'ai appris la relativité, et ben, il lisait le grec dans le texte, il se baladait à Jussieu avec Platon ou Aristophane sous le bras, il lisait le grec. Donc j'ai jamais. Bon, donc ça paraît étonnant parce qu'il y a une division du travail. Regardez, Hilbert, vous savez que Hilbert était physicien. Enfin, aujourd'hui, tout le monde pense que Hilbert était mathématicien. Il a formulé les 100 et quelques problèmes d'Hilbert en 1900. Une centaine de problèmes à résoudre. Tous ne sont pas d'ailleurs encore résolus, hein, mais on en a résolu beaucoup. Bon, mais Hilbert, c'était un physicien. Un physicien, il a besoin de faire des mathématiques. Et du coup, il s'est intéressé aux mathématiques et il est connu comme mathématicien. Mais c'est des histoires qui viennent avec la division du travail, voyez-vous. C'est la même chose que la sécurité sociale, que le c'est un truc de psychotique, c'est un truc à rendre malade les gens. C'est-à-dire, vous voyez, c'est comme le salariat ou le. C'est comme le service compris, voilà, sur l'étiquette. Voilà. Le service à l'appréciation de la clientèle, ah, évidemment, ça. Ah, il y a des gens qui ne vont pas laisser de pourboire. Il y en a d'autres qui vont en laisser trop. Bon. Ça paraît arbitraire, mais néanmoins, c'est ça la langue, vous voyez, c'est ça ce que j'appelle l'érotisation.
Vous êtes sûr que c'est sans problème?
100, ou un peu plus de 100, hein, de
moins.
Comment?
C'était moins.
Moins? Non, c'est pas plus. C'est plus. Je crois que peut-être c'est 103. Enfin, vous vérifierez, c'est dans tous les livres d'histoire. S'il y en a que 90, mais c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce que j'appelle érotique? Regardez, quand vous avez la négation devant P implique Q, et que vous regardez qu'est-ce que c'est que ça, eh bien, ça, c'est la même chose que P et non Q. Comparé avec la distributivité arithmétique. Comparé avec la distributivité arithmétique. Là, vous distribuez la négation seulement sur le deuxième terme, et en plus, vous changez ça. Alors, on va vous dire quoi? Ah, bon, alors, il y a des gens qui vous disent, ah, oh, c'est pas des mathématiques. Il y en a d'autres qui vous disent, c'est n'importe quoi, alors que c'est très précis, hein, parce que vous faites la table de vérité de ça, vous allez voir que ça marche. Ça marche aussi aux petits oignons. Ça marche aux petits oignons, mais seulement ça paraît à la gomme, parce que on a l'impression, on se dit, mais alors qu'est-ce que c'est cet énoncé-là, il est absolument indispensable pour étudier les énoncés catégoriques d'Aristote. Mais Aristote, il ne connaissait pas cette loi. Cette loi, peut-être qu'elle a été connue des stoïciens. Ça, je regarderai, parce que j'ai une nomenclature de ce qu'on trouve chez les stoïciens. Puis il y a le livre de Meitz, Stoïcologie, où on trouve leur façon de faire, qui est assez étonnante. Bon, on a fait des mathématiques très très longtemps, de manière très intuitive. Alors, justement, quand on s'écarte d'un standard, on perd l'intuition.
Beaucoup de démonstrations étaient complètement à la gomme.
En plus, il y en avait beaucoup. Leibniz fait des erreurs de calcul énormes. Quand il répond à Locke dans son nouveau traité de l'entendement humain, Leibniz, il n'a pas pigé la distributivité. La distributivité, l'associativité, la commutativité, ça vient au XIXe siècle avec les structures algébriques de groupes, d'anneaux et de corps. C'est des découvertes du XIXe. Avant, tant qu'on n'avait pas passé la fin de la métaphysique avec Hegel, il y avait un côté alors sexuel, sacré, appelez ça comme vous voulez, tout ça est très proche, c'était religieux, sacré, métaphysique, appelez ça aussi ontologique, appelez ça comme vous voulez. Moi, je pense que c'est une inertie littérale, mais que ça ne change rien à la littéralité. Bon, mais la littéralité, il faut du temps pour qu'elle se découvre, puisque c'est des sujets qui vont la découvrir d'une manière contingente. Il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de procédé pour trouver. C'est des drames. Et ça, vous voyez, c'est très tardif hein, pour parler des énoncés catégoriques d'Aristote. Tout le monde comprend la relation qu'il y a avec ça, avec les énoncés catégoriques d'Aristote. Je vous le dis, je vous écris une équivalence comparable à celle-là entre les énoncés catégoriques. Regardez, les énoncés catégoriques, c'est tous les G des Grecs sont mortels, ou sont des hommes, sont des âges. Bon. Hein? Et eh bien, ça s'écrit d'une manière contemporaine aujourd'hui, ça s'écrit comme ça. Quel que soit x, hein, g de x implique h de x. Tous les x, il n'y a pas les x, vous voyez, tous les x, tous les individus qui sont des grecs, sont mortels. Bon, on considère que ça, c'est le sujet. Donc, chez Aristote, il n'y a pas d'autre du sujet. Donc, on ne va pas dire x, vous voyez. Le fait de dire tous les X qui sont G, ça se dit pas. Donc il y a une équivoque, il y a une nouveauté qui apparaît avec l'époque contemporaine, c'est qu'on ne sait pas si l'énoncé catégorique c'est celui-là, ou si c'est pas simplement ça. Tous les X qui sont T de X, voilà. À condition qu'on sache que X appartient aux Grecs pour avoir ça. Hein? Donc c'est pour ça qu'il y a une équivoque dans le diagramme de Peirce entre cet énoncé-là et cet énoncé-là. Vous voyez ? Ça, c'est des choses à discuter, puis on pourra prendre, il faut discuter ça. Il ne faut pas accepter, prendre, bouffer ça comme un principe qui serait indiscutable. Ça, c'est un effort énorme de passer de cet énoncé-là, hein, où Aristote, on a beau se moquer des gens qui ont fait ça, mais c'est extraordinaire de passer de ça à ça. Parce que là, vous voyez, l'ensemble a été mathématisé, littéralisé, mathématisé. Qu'il y ait un espèce de crétin qui s'appelle Granger, là, Gilles Gaston Granger, qui décrète que les mathématiques des sciences humaines ne sont pas des mathématiques parce que les mathématiciens ne les reconnaissent pas comme telles, ben, je ne dis pas que toutes les mathématiques qu'on a fait dans les sciences humaines, qu'on essaye de faire pour faire les flics, parce qu'il y a beaucoup de... La science humaine, c'est une science de flics, hein, c'est pour arriver à calibrer les gens, c'est comme la psychothérapie aujourd'hui, hein, ça s'étend. Donc heureusement qu'on n'a pas un système d'écriture trop contraignant pour contrôler les gens. Mais le problème, c'est que là, il ne s'agit pas de contrôler les gens, il s'agit de voir que dans la logique, comme dans d'autres disciplines, c'est ça la psychanalyse, c'est ça l'enjeu de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est que il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas de sociologie scientifique. Les sociologues et les psychologues, ils essayent d'utiliser les statistiques pour avoir l'air mathématicien, physicien et scientifique. Mais heureusement que la psychanalyse est là, et c'est pour ça qu'on essaye de la détruire. La psychanalyse, elle est là pour dire, mais non, il y a un moment donné où le sujet, il est impliqué dans le calcul. Et qu'on ne fait pas des mathématiques pour calculer les autres, on fait des mathématiques pour apprendre à calculer. C'est très différent d'apprendre à lire que de vouloir prétendre surplomber les autres. Et vous avez tous ces crétins qui parlent de clinique comme s'il s'agissait de s'essuyer les pieds sur les gens qui viennent les voir. Moi, je suis scandalisé. Le mot clinique, c'est un très beau mot, mais on n'a pas le droit de parler de la clinique en croyant. C'est même pas parce qu'on ne peut pas prendre prétexte que Freud a écrit 5 psychanalyses pour parler de cinq cas qu'il a connus. Hein. Il y en a un, c'était le Schreber, il ne l'a pas connu, il a lu son texte. Le petit Hans, c'est le père qui a dirigé l'analyse. Freud, il le contrôlait par derrière, de plus loin. Ensuite, il y a l'homme au loup, l'homme au rat. l'Adora, tout ça, c'est les analyses qu'il a eues. Bon, alors tout le monde veut faire Freud, vous comprenez, mais c'est un scandale. Freud, justement, il peut faire ça, pourquoi? Parce que c'est le premier qui s'est aperçu. Il l'a écrit dans une lettre à Fliess, hein, et Deleuze, il peut gueuler sur l'anti-Oedipe tout ce qu'il veut, moi j'en ai rien à foutre. Il écrit à Fliess, il lui dit, voilà, j'ai découvert dans mon analyse et dans celle de mes patients que nous vivons un grand drame comme celui d'Hamlet et d'Oedipe. Bon, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit, dans mon analyse, j'ai trouvé, alors les mecs viennent pinailler, ah alors c'est une auto-analyse, ah, dites pas que c'est une auto-analyse, il n'y aura plus de clients, tout le monde va faire son analyse tout seul. C'est ça le problème, c'est que c'est un problème de clientélisme. Mais il n'y a pas d'auto-analyse, mais Freud, justement, alors Mannoni a montré avec des efforts louables que le transfert de Freud, il était sur Fliess et que c'était Fliess qui était l'analyste. Ah bon, alors on va pouvoir faire son analyse, pas peut-être tout seul, mais avec un copain. Donc tout ça, voilà, vous voyez tous ces gens-là, pourquoi? Mais moi je dis qu'il ne faut pas prendre le public, quel qu'il soit, pour des cons. Tout le monde sait très très bien qu'il n'a pas envie d'être rendu fou par quelqu'un qui va penser pour lui, hein. Et que c'est pas non plus, c'est pas le professionnel, c'est pas la direction de conscience. Le problème, c'est que le transfert, ça fait peur à tout le monde. C'est ça la question. C'est que derrière ça, vous avez le transfert, vous avez le sexe, vous avez la répétition, et ensuite vous avez l'addiction, vous avez l'anorexie, vous avez alors le délire, la psychose et tout ça. Et bien, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que il faut commencer par reconnaître. C'est pour ça que la psychanalyse n'existe pas actuellement. Elle est en train de disparaître. Elle a existé avec Freud un moment, elle a existé avec Lacan un moment à Paris, un moment à Vienne, et eux, ils se sont imposés comme analysants. Ils ont été analystes pour d'autres, mais ils ont d'abord été analysants. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est qu'être analysant, et comment on sert d'un analyste comme d'un ouvre-boîte pour faire une analyse, mais on n'est pas analysé par quelqu'un qui pense pour vous. Donc, sociologie, psychologie, le discours savant, le discours érudit, le discours technique sur les autres, c'est une horreur, puisque c'est une façon de rendre les gens fous. Oui.
Qu'est-ce que vous rétorquez à ceux qui pensent que, enfin ceux qui disent que la psychanalyse a tendance à créer une nouvelle religion?
Oh bah c'est très simple. C'est extrêmement simple parce que la psychanalyse, écoutez, ni du point de vue du confessionnal, parce que c'est une des choses auxquelles on pense, là j'ai parlé du confessionnal, ni du côté du sexe et du sacré, pourquoi c'est pas une religion? Ça en a tout à fait les coordonnées, hein. Il y a des allumés qui inventent la psychanalyse. C'est comme dans les religions. Vous avez des allumés qui inventent la religion. Ensuite, vous avez, hein, c'est ce qu'on appelle le prophète, ou bien ce qu'on appelle, c'est le Christ, Mahomet, tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent, vous voyez, dans la religion chrétienne, ils viennent les pères de l'Église. Hein, les pères de l'Église, ça va jusqu'à saint Augustin. Et ensuite, vous avez les docteurs. Donc voilà, tout ça, c'est très bien. La psychanalyse, on pourrait dire la chose suivante, c'est qu'il y a deux allumés qui s'appellent Freud et Lacan, qui ont inventé, qui ont écrit des textes, hein, comme le Coran ou les Évangiles. D'ailleurs, ça a été écrit par... Il s'est fait un peu aider, le Christ. Déjà, vous voyez, c'est comme avec Jacques Miller. Lacan, il a parlé, alors du coup, il attend qu'un autre le mette sur le papier, bon... Donc tout ça ressemble énormément, hein. Je ne doute pas une seule seconde qu'on peut être censé. Alors pourquoi ça n'est pas une religion, hein? Moi je veux dire, je ne suis même pas contre les religions, je ne suis ni pour ni contre les religions. Lacan, il nous dit que la seule chose qui fait la différence, c'est que nous nous occupons du Père. Comme jamais personne ne s'en est occupé avant. Vous pouvez dire ça. Ni pour ni contre aucune religion, mais nous avons autre chose à faire. C'est nous occuper de cette question, qu'est-ce que c'est qu'un père? Parce que ça, Freud n'a pas réussi à répondre. Il a répondu, qu'est-ce que veut une femme, hein? Et déjà, on ne veut pas l'entendre. Mais qu'est-ce que c'est qu'être un père? C'est très difficile, qu'est-ce que c'est qu'être un père? Parce que le père est inconscient. Donc déjà, si vous pouvez le mettre sur le grill ou lui cracher dessus, comme on s'en est jamais privé, le père, vous voyez, regardez dans Homère, quand Ulysse arrive à Ithaque, il va voir son père. Et qu'est-ce que lui dit son père? Le père et le pire n'est jamais sûr. Là, quand il le reprend en télévision, en disant le père et le pire, c'est toujours sûr. Il n'y a que la psychanalyse qui peut dire ça. Parce que, alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le père, justement, vous voyez? Mais le problème, c'est que le père, vous ne le saurez pas en interrogeant le père. Lacan, il dit, j'ai jamais vu une analyse de père. Si vous trouvez une analyse de père, quelqu'un qui est capable, soit comme père ayant fait une analyse, soit comme analyste ayant eu un père en analyse, Si vous en trouvez une, analyse de pair, amenez-moi ça tout de suite. Je veux voir. Vous voyez ? On ne peut pas analyser le pair. C'est de la fumée, le pair. Bon. Par contre, on peut dire qu'est-ce que c'est que le pair, aujourd'hui, grâce à Lacan, pas grâce à Freud. Freud, il est resté avec tout ça, le totem et tabou, et puis Moïse et Monoïdis, il essaye de le dégager un peu, mais pour Freud, le père, c'est le père symbolique, c'est le père mort. C'est le référent. Seulement, ce référent, ce père symbolique auquel on se réfère, ça s'appelle le phallus aussi. Alors, pourquoi le père symbolique, le père mort, c'est le phallus? Réfléchissons.
Le père. Eh bien, vous avez un exemple parfait qui vous met la puce à l'oreille, c'est dans le Seigneur sur le transfert, au moment où le fils tue le père avec deux flingues dans la trilogie de Claudel. Il y a le père, la fontaine, il est dans le fauteuil, et le fils, il se pointe, et comme il ne veut pas le rater, il ne prend pas un flingue, il en prend deux. Papa, papa, c'est comme dans un western, et il tue le père. Bon. Et qu'est-ce que dit Lacan à ce moment-là? Il dit, c'est le phallus qui est en train de claboter dans le fauteuil. Ouais, c'est comme ça qu'il parle Lacan, hein. Il n'a pas sa langue dans sa poche, c'est pas la langue de bois. C'est le père, c'est le phallus qui est en train de claboter dans le fauteuil. Pourquoi, au moment où il meurt, le père devient phallus? C'est une question que je vous pose. On pourrait faire un concours. Quelles sont vos réponses? Mais ça, c'est le père freudien, justement. C'est pas le père lacanien. Ça, Freud, il a vu ça, il est allé jusque-là. Le père, c'est le phallus. Pourquoi? Le référent, c'est quoi? Eh bien, parce que, alors, il faut donner des définitions. Qu'est-ce que c'est que le phallus? Le phallus, c'est le signifiant du désir. Hein, c'est assez con, c'est aller à Pompéi, regardez, on va vous en vendre, si vous êtes touriste, on va chercher à vous vendre des phallus en érection, en cachette, parce que c'est un trafic clandestin, il faut faire monter les prix, quoi. Donc, la police est dans le coup, évidemment. Bon, tout le monde est dans le coup. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que le signifiant du désir? Ben, c'est cette histoire à la con, excusez-moi, j'emploie le mot, parce qu'il est absolument approprié dans cet endroit-là. C'est une histoire à la con que les dames, elles ont pas de pénis, alors elles n'ont pas une manifestation qui, paraît-il, serait visible comme les mecs qui, eux, quand ils désirent, ils bandent. C'est ça le phallus. Le phallus, c'est le signifiant du désir, parce que chez un homme, ça manifeste le fait qu'il désire. Bon. Le signifiant du désir. Mais c'est pas seulement le signifiant du désir du type qui désire, le mec qui bande. C'est aussi le signifiant du désir de la dame. Et c'est ça que la découverte de Freud. Qu'est-ce qu'elle veut, la dame? Elle s'intéresse à cette situation, justement. Comme le désir de l'un, c'est le désir de l'autre, ça fait ping-pong, et c'est quand même déjà, ça nous met sur la piste du fait qu'on ne sait pas très bien lequel des deux désire. D'ailleurs, on ne saura même pas lequel des deux jouit. Lacan fait cette remarque. Hein, quand deux corps jouissent, je ne sais pas où il est allé assister à des séances de baise, mais peut-être parce que les médecins, vous savez, ils font ces trucs. Moi, j'ai pas une expérience de ça du tout, je suis pas médecin. Mais donc, il dit que quand deux corps jouissent, on ne sait pas lequel des deux. Bon. Et peut-être que c'est son expérience personnelle à ce moment-là.
Ah, mais quand deux corps sont emboîtés, l'un oui. Des fantasmes, des femmes qui fantasment.
Oui.
Qu'est-ce qu'elles ont fait?
Bon, bah, bien sûr, non, mais bien sûr. Bon. Mais non, mais l'enjeu
on
est là.
On ne sait plus qui l'a.
Voilà, mais l'enjeu, on ne sait plus qui l'a. Moi, je vais même vous dire les choses autrement. Quand un couple hétéro, c'est trois. Il y a un mec, une bonne femme et le phallus. Ce qui fait que deux femmes qui sont homo, c'est deux. Hein? Mais deux PD mâles, homosexuels, ils sont quatre. Donc vous voyez, vous avez une sexualité à deux, à trois ou à quatre. Vous avez le choix, il faut d'ailleurs essayer. Hein? Moi, la psychanalyse, elle n'a pas à dire comment il faut faire. Hein? Elle ne dit pas qu'il faut faire d'une manière ou d'une autre. Vous avez l'amplitude de faire. Selon, je suis sûr que ce n'est pas la même chose que d'être deux, trois ou quatre dans un lit. Alors ensuite, il y a des gens qui se multiplient. Bon, mais vous voyez, la psychanalyse, c'est pas une sexologie, c'est une question. Alors, je reviens maintenant à des questions intéressantes. Qu'est-ce que c'est que le signifiant? Qu'est-ce que ça veut dire, le signifiant du désir? Le phallus, c'est le signifiant du désir. Le père, il meurt. Au moment où il meurt, il devient le signifiant du désir. Ben, avant, il ne l'était pas. Ça veut dire qu'avant, le père, il n'était pas le signifiant du désir, il était le mari. Il portait le pénis, il était le porteur de l'organe, il portait le troisième larron. Et puis, la dame, elle était intéressée par ce signifiant du désir. C'était, bon.
Moi, je vous dis que c'est une connerie, cette histoire, parce qu'il est évident que même sans organes apparents et extériorisés, vous voyez bien que le désir, ça se voit, ça s'éprouve, le désir de l'autre. C'est évident que pour les types aussi, il faut être en fer blanc pour croire que les mecs, ils bandent, ils vont manifester le désir, et que les dames, elles attendent ça. Pourquoi ? Bon, c'est complètement aberrant. Il est évident que chez les hommes et les femmes, le désir, c'est du ping-pong. C'est pour ça que le Viagra est une connerie. Il n'y a pas meilleur Viagra que le désir de l'autre. Et ça s'éprouve, le désir. Ça s'éprouve pas seulement... Donc on ne va pas rentrer dans des détails comme ça, parce que la psychanalyse n'est pas une sexologie. Elle ne s'intéresse pas à tout ça. Elle s'intéresse à des notions précises, comme par exemple, dans la tradition, dit Lacan, on appelle phallus, ce qu'on appelle phallus en latin, lisez le sexe et l'effroi, il l'appelle le fascinos. Tous nos ancêtres, c'est-à-dire nos pères et nos grands-pères, dans ma génération, mon père et mon beau-père, ce sont des types, ils ont découvert le sexe dans les cours de latin. Parce que chez les petits chrétiens, on découvre ces histoires en lisant, en faisant des thèmes et des versions latines. Et si vous lisez le sexe et l'effroi, vous avez là le matériau littéraire pour pouvoir ne pas vous perdre dans la sexualité de tous les types qu'on fait avant qu'on fasse plus de latin en classe. Quand ils faisaient du latin, ils avaient tous une sexualité. Moi, mon père, sa sexualité, c'est programmé. Il y a un fantasme, ça s'appelle un fantasme. Il y a une théorie du sexe qui s'appelle le sexe et l'effroi de Pascal Guignard. Bon. Magnifique. Vous avez là une clinique. Ça, c'est plus intéressant. Vous avez le roman du phallus. Vous avez le roman du phallus. Vous lisez-le. Comme ça, au moins, vous saurez qu'est-ce que les générations qui nous ont précédés, comment ils concevaient le sexe. Bon. C'est déjà plus intéressant que des histoires de sexologie, de lire sur le sexe et l'effroi. Les Romains, ils ont écrit ça. Lisez Catulle. Lisez les textes romains, et puis vous allez voir qu'il y a une culture médicale et bourgeoise du latin. Bon, le phallus, voilà ce que c'est. C'est le signifiant du désir dans une certaine ère culturelle qui s'appelle le latin romain. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit exactement la même chose chez les Japonais, les Chinois, les Indiens. D'ailleurs, ça nous surprend beaucoup. Regardez les temples d'Angkor. Nous, dans notre iconographie, on n'a pas de rapport sexuel, puisqu'il n'y en a pas chez les chrétiens. Alors, vous voyez dans les temples d'Angkor, au contraire, il y a des couples qui cohabitent. Bon, alors ça affole tout de suite les occidentaux, les catholiques, les chrétiens. Comme ça n'existe pas chez eux, ils se disent, oh là là, torride. Pas torride du tout. Non, il se trouve que c'est un fait de doctrine religieuse. Bon, il y a des doctrines religieuses, mais moi, je suis ni pour, ni au contre, aucune. Hein, ni même la civilisation latine ou grecque. Je ne suis pas là pour faire l'apologie. Il n'y a pas de bonne manière de faire. C'est ça que nous apprend l'analyse. Alors, maintenant, on en vient au père. S'il fallus, on est d'accord sur ce que c'est, mais il faut le commenter, il faut en parler, il faut le dire. Et puis, il faut voir un peu les problèmes qui se posent encore. Écoutez, cette histoire de fonction phallique, ça conduit quand même à faire la Tour Eiffel, l'Empire State Building, les champs. C'est pas Freud qui a inventé ça, les champs de pierre plantés que l'humanité, quand elle a réussi à réunir une puissance physique collective, la première chose qu'elle a fait, c'est pas des églises, c'est pas des bâtiments pour se protéger du froid ou de la chaleur, c'est pas des temples, c'est planter des cailloux. Hein. Et il y en a sur la planète entière, il n'y en a pas qu'en Bretagne, il n'y en a pas qu'à Carnac, vous en trouvez même en Corse, vous en trouvez évidemment chez les Celtes plus au nord. De toute façon, les Celtes, ils ont occupé toute la zone, même jusqu'à l'Espagne. Hein. Ça, si vous regardez un peu les cartes que font les linguistes là, sur l'indo-européen. Bon, donc des sites de ce type, vous en avez partout. Moi, je vous explique que grâce à la symétrie miroir, la dimension 3 par rapport au plan. L'opposition entre le plan de dimension 2 et de la dimension 3, ça change complètement les rapports de l'objet et de son image dans un miroir, son image symétrique. Si un objet est de dimension 2, il est identique, il est superposable à son image. S'il est de dimension 3, on ne peut plus le superposer, il y a un truc qui vient coincer, c'est ça le phallus. Alors, je sais bien, Lacan, il a parlé d'un crocodile, du bâton qu'on met en travers de la bouche du crocodile, mais ça, c'est déjà beaucoup plus tard, ça, cette histoire. C'était beaucoup plus tard, parce que c'est l'histoire du vagin denté. Bon, c'est beaucoup plus tard, cette histoire. Tandis que prenez les choses au niveau purement structural, vous voyez bien que quand vous avez un objet de dimension 3 et son image symétrique dans un miroir, vous avez ici quelque chose qui fait obstacle à la superposition. Il y a une dimension qui ne se superpose pas comme les deux autres, d'accord? Vous voyez ça? Bon, si c'est de dimension 2, faites l'expérience vous-même, prenez une main, votre main, vous la mettez sur une feuille de papier, vous tracez le profil de votre main, vous découpez cet objet, vous le mettez devant un miroir, vous verrez que l'image d'une main plate, hein, elle est parfaitement identifiable à la main plate que vous avez dans la main. Vous voyez? Bon. On dit, moi je le trouve extraordinaire justement, pourquoi c'est pas une religion? Parce que ça repose, la psychanalyse, sur des petites choses comme ça. Vous voyez, qui vont être une sorte d'axiomatisation du discours. Vous avez des choses extraordinaires. Pourquoi est-ce que personne ne dit qu'est-ce que inverse le miroir? Vous voyez, c'est la fonction phallique, elle va prendre toute sa portée à partir de la symétrie miroir. Et Lacan, donc, avec le stade du miroir, il améliore rudement, il transforme rudement le narcissisme. Hein. La relation qu'on peut avoir avec son image, selon qu'on se considère comme plat ou de dimension 3. Alors tout le monde dit le miroir inverse la droite et la gauche, parce que le miroir effectivement inverse une main droite en main gauche. L'image de ma main droite dans le miroir, c'est exactement identifiable à ma main gauche. Mais attention, ma main elle a un volume, donc je vous dis, une main plate elle est la même, et une main qui a une certaine épaisseur elle est droite ou elle est gauche. Mais vous voyez pourquoi? Parce que elles sont opposables mais pas superposables, les mains. Mais si jamais elles étaient plates, le fait de les opposer, ce serait la même chose que de les superposer. Et c'est pour ça qu'elles sont identiques. Bon. Alors ensuite, deuxième étape, regardez. Quand on vous dit que le miroir inverse la droite et la gauche, il y a des gens qui font l'expérience suivante. Tenez, je prends un truc qui se voit de loin. Est-ce que j'ai un gros titre dans un... Oh, ben, je vais prendre des écrits de Lacan. Voilà. Vous avez là, vous avez le mot, vous avez écrit là, sur la page. Et... ça doit être au milieu de la page ici, écrit. Vous voyez, c'est gros, c'est écrit. Bon, regardez, le mot écrit, vous voyez, vous avez ce mot écrit. Quelqu'un va me dire, mais le miroir, il inverse la droite et la gauche, regardez. Si je mets ce que j'ai là, que je lis écrit, si je le mets devant la vitre, là, qu'est-ce que je vois dans le miroir? Je vois écrit à l'envers, n'est-ce pas? Le E qui est là, hein, et qui E-C-R-I-T-S, quand je les vois là-dedans, c'est pas comme je l'ai lu, ça passe de ce côté-là à ce côté-là. Donc ça inverse l'ordre des lettres, d'accord? Vous croyez que le miroir inverse l'ordre des lettres? Qui est-ce qui oserait me dire que le miroir inverse l'ordre des lettres? Le miroir, il n'inverse pas l'ordre des lettres. Ce qui inverse l'ordre des lettres, c'est que je présente le texte en le tournant. C'est moi qui tourne en présentant au miroir, hein, le livre, j'ai inversé le livre. Donc j'ai inversé le texte. C'est moi qui ai fait tourner le texte. Si je le regardais en transparence ici, voyez-vous, il est inversé aussi là en transparence. Hein, par là. Bon. Et comment je peux vous prouver que j'ai raison? Que le miroir n'inverse pas la droite et la gauche? Eh bien, j'ai qu'à inverser. Au lieu d'inverser, pour le montrer au miroir, au lieu de l'inverser comme ça, je vais l'inverser comme ça. Eh bien, regardez, il a la tête en bas, mon texte. Et les lettres ne sont pas inversées droite à gauche. Elles sont toujours dans le même ordre. Vous faites l'expérience chez vous. Hein. Prenez un mot écrit sur un papier, gros, et mettez-le devant le miroir. Si vous faites comme ça, vous allez voir que ça inverse la droite. Vous allez croire que ça inverse la droite et la gauche. Mais si vous faites comme ça, ça inverse le haut et le bas. Bon, alors qu'est-ce que c'est? C'est le livre qu'on a inversé qui a inversé l'écrit. Mais le miroir, il n'inverse pas les choses plates. Non, il n'inverse pas les choses plates. Il n'inverse que les choses qui ont trois dimensions. Voilà une introduction à la fonction phallique qui a un lien avec le narcissisme. Qu'est-ce que c'est que le narcissisme? Le narcissisme, c'est l'articulation pour l'enfant de son corps avec cette dimension phallique qui est une dimension en plus. Et qu'il a découvert, l'enfant, là qu'on nous le dit à la fin de sa vie, au dernier moment, dans le trauma, au moment du malentendu, quand l'enfant s'aperçoit qu'il y a un malentendu avec les parents, entre les parents. Le malentendu des parents est traumatique. L'enfant, il se rend compte qu'il ne s'entend pas crier. Aussi bien au lit que quand ils se disputent, hein, quand ils font la bête à deux dos, quand ils s'aiment beaucoup, quand ils ne s'aiment pas du tout. Donc c'est traumatique, pourquoi? Parce que les réponses qui viennent de l'autre, elles sont toujours traumatiques. Hein. Et que la question qui se pose pour l'enfant bien avant même le trauma, c'est que de toute façon il se pose la question, qu'est-ce que c'est que ces deux-là, hein? Lacan vous fait remarquer par exemple un moment dans un séminaire et aussi dans un écrit d'ailleurs, dans Subversion, il fait remarquer que la question la plus éviscérante qu'on puisse poser à un enfant, la plus salope, la plus dégueulasse question qu'on puisse poser à un enfant, c'est de lui demander qui tu préfères de ton papa ou de ta maman. Parce que justement, l'enfant, qu'est-ce que c'est Oedipe ? Oedipe, c'est quelqu'un qui va essayer de faire du 2 avec du 1 et du 1 avec du 2. Vous voyez ? Il va essayer de rentrer dans la logique modifiée, justement. Moi, je vous entraîne dans un terrain où je prétends pas vous donner des réponses, mais je vous prétends vous donner les moyens de construire votre solution oedipienne. Comment réussir à écrire que ma mère et mon père, c'est pas pareil et c'est quand même la même chose. Vous voyez, c'est ce qu'essaye de faire Alcibiade entre Agathon et Socrate. Vous voyez, à la fin du banquet. Hein? Qu'est-ce que lui dit Socrate? Socrate, qui lui savait ce que c'était que le transfert, cette histoire d'Oedipe, sans le nommer comme ça. Qu'est-ce qu'il dit Socrate? Comment il interprète? Lacan dit qu'il savait ce que c'était et qu'il aurait pu inventer la psychanalyse à Athènes s'il avait fait payer les gens. Et il dit que ça aurait été un génie. Ça, il écrit ça dans ce Joyce le symptôme. Bon. Qu'est-ce qu'il savait Socrate? Socrate, il écoute l'éloge d'Alcibiade. Alcibiade, il vient, il est bourré, pour faire le coup qu'il veut faire, pour faire le petit Oedipe, là, pour faire papa-maman, il a besoin de se bourrer la gueule. Il vient, il se met entre Agathon et Socrate, il vient s'installer entre tous les deux. Bon. Et il commence à vouloir faire l'éloge de Socrate. Alors, il lisait l'éloge de Socrate, et lisait la réponse de Socrate à la fin. Il n'y a que Lacan. Tout le monde est là en train de nous dire que le transfert, c'est l'amour, ce serait la liaison entre Socrate et Agathon. Non, mais c'est des gens qui n'ont... Ils n'ont rien entendu à la psychanalyse, tous les gens qui nous disent ça. C'est Don Quichotte. Hein, c'est vraiment le symptôme. C'est le symptôme de la psychanalyse. Vous voyez, je vais vous faire un petit topo sur le symptôme.